Bonjour, bienvenue de retour sur Afrique virtuelle sur Creative Disturbance. Je m'appelle Yvan Tina, je suis doctorant à l'université d'Aix-Marseille en France et à l'université du Texas à Dallas. Et j'ai vraiment le grand plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Mohamed Aziz Chafchaoui. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour Yvan.
Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît.
Oui, je suis dans le domaine multimédia et dans le domaine de la réalité virtuelle, enfin dans différents domaines. Je travaille plus précisément sur un concept, disons, de synergie entre les arts, les sciences et la spiritualité. Les arts étant l'expérience, disons, de la géométrie arabo-musulmane,
Oui.
cette expérience, disons, à travers un certain nombre de siècles, est-ce qu'elle a donné au point de vue esthétique, au point de vue conceptuel, au point de vue pensée d'abstraction, disons, d'unité et d'esthétique. Et puis aujourd'hui, bien sûr, avec les nouvelles technologies et avec l'apport, disons, de la société informatisée et de la nouvelle société du savoir, ce potentiel historique de l'art arabo-musulman, enfin de cette abstraction, trouve de nouvelles forces dans les nouvelles géométries, les nouvelles mathématiques, dans les différentes sciences en fait en général. Donc c'est un champ vraiment très intéressant, dans lequel aussi la visualisation scientifique intervient. Et l'objectif de tout cela, c'est de trouver de nouvelles clés, de nouvelles ouvertures, à la recherche d'une nouvelle esthétique, enfin une esthétique universelle, qui se ressource dans les différentes traditions, mais dans la tradition arabo-musulmane, étant elle-même dans ces périodes d'apogée, elle a été un peu une sorte de réactualisation des différentes pensées universelles qui l'ont précédée. Voilà.
Merci beaucoup. C'était à la fois complet et succinct. On aura l'occasion de revenir sur votre pratique artistique sur Afrique virtuelle dans d'autres podcasts. Mais aujourd'hui, je voudrais commencer cet entretien par vraiment essayer de penser le projet Afrique virtuelle de manière conceptuelle et ce que c'est. Sa précédente version qu'on peut trouver sur le site web Leonardo Olat. Donc Afrique virtuelle avait pour but, dans sa précédente version, d'encourager le dialogue entre les arts, les sciences et les nouvelles technologies, de créer des rapports entre des cultures et d'encourager en tout cas les relations et les collaborations avec les artistes africains et panafricains à travers le monde. J'aimerais vous demander avec vous, en termes conceptuels, pour vous, c'est quoi Afrique?
Bah écoute, merci pour cette question parce qu'elle se resitue dans différents horizons. D'abord dans la société de l'information et dans la nécessité d'avoir une voix, comme le mot podcast l'exprime vraiment bien. Une voix aujourd'hui manque dans ces nouvelles plateformes et dans ce potentiel énorme que proposent les nouvelles technologies et la société du savoir en général. Donc c'est une manière, disons, d'une relecture du potentiel artistique, culturel, humanitaire, universel. Mais en même temps, avec une relecture de comment ce potentiel transhistorique
Oui.
pourrait être progressivement, pourrait arriver, disons, à l'expérience, disons, des internautes ou disons, des usagers ou des citoyens du monde, je veux dire. Donc, le continent africain. Il est la matrice du monde
Oui.
et cette matrice a toujours participé à l'évolution du monde. Aujourd'hui, Elle constitue aussi un intérêt stratégique par rapport aux
Des
grands
domaines que...
acteurs économiques, politiques du monde et tout cela. Et c'est véritablement le moment d'accompagner, disons, cette recherche de démocratisation de la société de l'information pour l'Afrique. Moi, je pense que Virtual Africa pourrait être un pilier fort dans l'effort mondial qui se fait pour généraliser l'utilisation d'Internet et de donner les outils que cela suppose par rapport aux différents citoyens de ce continent.
Effectivement, dans l'actuelle description du projet qu'on peut trouver sur le site de Creative Disturbance, on insiste beaucoup sur le caractère mondial, enfin global, sur l'impact en quelque sorte de la mondialisation aujourd'hui et la nécessité de prendre en compte la voix africaine dans les discours. Qui porte non seulement sur l'art, mais aussi sur le développement des sciences et des technologies. Et je crois que à ce sujet, c'est pour ça que on a pensé à réintroduire la notion de tout monde, empruntée à Édouard Glissant. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'analyse, comme une manière de réinventer une poétique de la relation au regard effectivement des mutations presque anthropocentriques que l'on connaît aujourd'hui. Et la voix africaine est malheureusement souvent absente des discours et des pratiques. Ou c'est pas qu'elle est absente au sens où il n'y aurait pas de personnes qui tiendraient de propos au sujet de ce qui est produit aujourd'hui ou qu'il n'y aurait pas d'artistes africains, mais c'est que elle n'est pas visible. Et l'objectif d'Afrique aussi, c'est de rendre visible ces voix-là. De la rendre audible.
Absolument. Ben, je pense que c'est ce point-là, disons, de la visibilité qui est fondamental. Et je me rends compte aujourd'hui que toute information qui a, en plus, qui a une valeur substantielle, a la capacité aujourd'hui de traverser les différents filtres, disons, des réseaux sociaux et de se positionner, disons, comme plateforme qui pourrait être regardée, expérimentée par les utilisateurs ou par les internautes du monde. Je veux dire, cette capacité aujourd'hui de monter ces différentes échelles et de pouvoir être apprécier, communiquer est fondamental. On n'a jamais vu une expérience comme ça depuis le début de l'humanité. Mais comme tu dis, aujourd'hui, il s'agit véritablement de se réapproprier ces outils et de permettre à la créativité africaine, à la création africaine d'être visible, d'être là, et surtout, bien sûr, chemin faisant, véritablement de se repositionner par rapport au potentiel de la société de l'information. Et comme je disais tout à l'heure, avant de commencer ce podcast, ce discours, aujourd'hui, il est nécessaire. Parce que ces sociétés, les nouveaux outils sont nés dans d'autres territoires. Et aujourd'hui, ils ont des capacités énormes qui peuvent être généralisées dans différents domaines, dans le domaine, disons, des utilisations les plus simples, les plus complexes, dans le domaine scientifique, dans le domaine de la santé, du bien-être, dans le domaine de la survie. Dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'éducation. Et je pense que les deux domaines que je viens de citer, qui sont l'art et l'éducation, c'est des domaines tellement fondamentaux que l'approche humanitaire qu'a toujours eu l'Afrique, cette relation au savoir, cette relation avec l'autre et avec et la relation communautaire, disons, de l'appropriation de la connaissance et de l'expérience de la vie, est fondamental qu'elle soit revue dans son aspect spécifique.
Qui... Et pour...
Oui, oui.
Excusez-moi, mais j'imagine que pour adresser ce problème, il faudrait peut-être rassembler un certain nombre d'acteurs ou d'experts et d'intellectuels africains pour penser cela, non?
Oui, c'est certain, c'est certain. Je pense que aujourd'hui, il faut saluer des grandes réflexions qui se font à l'échelle des grandes institutions mondiales. Je veux dire, malgré les problèmes que connaît le monde et tout ça, il y a des institutions qui aujourd'hui, qu'elles soient des institutions publiques internationales ou certaines grandes sociétés, tout à l'heure on parlait de Facebook ou de Google, qui sont en train de lancer des stratégies de développement durable au niveau de l'éducation, au niveau de la démocratisation du savoir. Et il faut saisir cette force, l'accompagner, mais en même temps, pour l'accompagner et de donner des projets cohérents, il faudrait véritablement penser à une structure think tank qui puisse réunir des équipes pluridisciplinaires formées de scientifiques, d'artistes, de visionnaires, mais en même temps de porteurs de cette culture africaine et de cette mémoire africaine. Capable, bien sûr, le think tank aura comme objectif de focaliser sur l'essence de cette culture à travers le temps et comment cette essence peut être revisitée aujourd'hui avec les moyens et les technologies modernes.
Juste une question en passant pour vous, ce think tank doit être international multiculturel ou bien il faut qu'il soit ancré en Afrique et qu'il soit africain.
Ouais, je pense que il faudrait qu'il soit multidisciplinaire avant d'être multinational. Je veux dire multidisciplinaire dans le sens où les différentes sciences modernes ont tellement de choses à nous apporter que ce qui manque, c'est parfois le regard de l'autre. Et aujourd'hui, un regard, disons, d'un enfant qui est né devant les montagnes de l'Himalaya, quand il reçoit cette technologie, est tout à fait différent de quelqu'un qui est né dans le delta du Mékong ou sur le... ou dans une région de l'Amérique du Sud. En fait, l'utilisateur de ces nouvelles technologies, l'utilisation va dépendre de la culture que porte cet enfant ou ce sexagénaire qui va utiliser ces technologies ou cette femme au foyer, parce que la technologie vient comme une nouvelle vague, comme une force extraordinaire du XXIe siècle, mais elle doit être adaptée aux besoins et à la force créative justement des peuples qui la perçoivent. Maintenant, le think tank dans ce sens-là va être constitué, disons, de personnes, de scientifiques, d'artistes qui ont déjà une connaissance suffisante dans l'apport spécifique de l'Afrique au point de vue culturel, au point de vue scientifique, au point de vue expérience de la vie, dans le sens communautaire, dans le sens sagesse, dans le sens perception du monde, dans le sens éclosion je veux dire, essence avec le monde, en fait. C'est-à-dire cette relation de l'être est capable de l'univers ou l'être est capable du monde doit être bien pensée par les différents ressources humaines qui vont travailler à un projet commun qui est en fait un business plan qui devrait être proposé pour accompagner les grandes actions stratégiques de développement de la société de l'information et qui vise l'Afrique. Et c'est vrai que c'est un think tank qui devrait travailler au départ sur des, je veux dire, qui devrait être porteur d'une force d'accompagnement des grandes stratégies mondiales de développement. Quand on imagine, par exemple, ce qui se fait aujourd'hui au niveau de l'Inde, parce que déjà l'Inde est un continent en lui-même.
Oui.
Et je sais que, étant donné que c'est un continent en lui-même, mais qui est dirigé par une force politique, une force, fait qu'ils arrivent quand même à capter l'intérêt et à décliner des stratégies de développement, surtout par exemple dans le domaine dans le domaine agricole, dans le domaine du développement durable, dans le domaine de l'exploitation des énergies et dans le domaine de l'éducation. Ils le font en fonction de leur réalité propre, des réalités régionales. Mais ils le font en tant qu'unité structurelle qui est un gouvernement indien. Et ils font des choses extraordinaires. Alors, imaginons ça comme un potentiel qu'on peut utiliser en tant que think tank qui devrait s'adosser aux grandes actions internationales d'aide au développement de l'Afrique, mais qui devrait véritablement être comme un astrolabe qui pointe vers des orientations culturelles, scientifiques, de vision du monde et surtout proposition de cet équilibre fondamental qui est l'être dans l'univers, l'être dans la région, l'être dans la communauté, l'être dans la tribu. Voilà, tout ça, c'est cette voie que le monde attend de la part de l'Afrique.
Écoutez, je vous remercie. On va clore là ce premier podcast et on nous retrouve dans le prochain épisode.
Merci.